Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Bonifay, directeur central développement durable qualité sécurité environnement du groupe Bouygues, mais aussi, et c'est surtout ce que l'on va aborder aujourd'hui, président du C3D. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. Bon, comme j'ai pour habitude dans L'Empreinte, c'est d'abord de te connaître toi, savoir un petit peu d'où tu viens, quels sont tes engagements, puisque là, tu m'as l'air quand même d'être quelqu'un de très très engagé en matière de RSE, donc c'est ce qui m'intéresse. Voilà, je te laisse me parler de toi.
Je crois que c'est Nicolas Hulot qui disait que le développement durable, on y vient par opportunité, on y reste par conviction. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai fait pendant très très longtemps, au début de ma carrière chez Bouygues, de la qualité, de la sécurité.
Ah, donc t'as commencé chez Bouygues dès le début?
Pas directement, mais ça fait quand même 30 ans que j'y suis, donc une longue carrière quand même chez Bouygues.
C'est pas mal, c'est mon âge là bientôt.
Voilà. Et essentiellement dans les fonctions qualité, sécurité, environnement. Et Olivier Bouygues m'a proposé en 2007 de prendre le poste de directeur de plan durable pour l'ensemble du groupe. Hein. À l'époque, c'était le Grenelle de l'environnement.
2007.
Oui.
Ah ouais, donc déjà avant même qu'il y ait tous ces nouveaux enjeux, puisque je pense que tu l'as vu arriver là, cette montée de la prise de conscience écologique, non? Tu la vois
oui,
pas?
Oui, c'est arrivé au moment du film d'Al Gore. Je sais pas si tu te souviens.
Tout à fait.
Une vérité qui dérange.
Tout à fait.
Et dans la foulée, l'organisation Sarkozy venait juste d'être élu, l'organisation du Grenelle de l'environnement. Et c'est à cette époque que la plupart des grandes entreprises, certaines l'avaient anticipé un peu, mais c'est à cette époque que les directions de plan durable ont été créées partout au niveau du CAC 40. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, chez Bouygues, pour faire du business autrement, c'est-à-dire en prenant en compte les impacts. Et c'est aussi donc à ce moment-là que le C3D a été créé, donc par Hélène Valade, en 2007-2008. Et au début, bon, on n'était pas très nombreux dans cette association. On est maintenant 164 entreprises,
ah ouais,
ce qui est énorme.
C'est énorme.
On a quasiment toutes les grosses. Celles qui ne sont pas encore chez nous, on leur propose de nous rejoindre. Et c'est une association de professionnels du développement durable dont la mission est d'accompagner leurs entreprises dans la transition vers des modèles d'affaires plus durables.
D'accord. Et quand Hélène du coup l'a créé, c'est ça?
Oui.
Vous étiez combien au tout début?
Ah bah au tout début, elle était toute seule. Hein, quand elle a décidé de créer ça avec Patrick Dumière, avec deux ou trois entreprises pionnières, mais très rapidement, on avait une croissance de 10-15% d'entreprises par an. Et l'an dernier, on a fait 35% de plus en un an. On sait pas pourquoi. Ouais, en fait.
Ce que je te disais, la prise de conscience. Moi, je pense que c'est devenu aujourd'hui, c'est incontournable la RSE.
Bah on dirait, mais c'est à temps. Hein, parce que je pense que les enjeux sont quand même tout à fait énormes si on ne se bouge pas dans les 3000 jours à venir là. Donc tant mieux s'il y a une prise de conscience, car le chemin qui reste à parcourir est tout à fait colossal.
Et toi, t'as toujours été convaincu?
Mais non, ce que je disais, c'est quand je suis arrivé en 2007.
C'était vraiment sécurité.
Oui, c'était qualité, environnement. Oui, j'ai pas compris tout ce que j'ai compris depuis une douzaine d'années maintenant, grâce d'ailleurs au contact avec les scientifiques. C'est les scientifiques qui nous ont éduqués, nous autres responsables de développement durable, et qui nous ont expliqué qu'il n'était pas possible de continuer d'exploiter les ressources comme on le fait aujourd'hui, et que le modèle de nos entreprises n'était pas clairement pas soutenable. Donc c'est au contact de ces scientifiques qu'on a pris conscience de ça. Une fois qu'on a compris pourquoi, ben on peut supporter tous les comment. Et les comment, ben c'est comment reconfigurer nos modèles d'affaires. Et c'est ça qui va être intéressant dans les années qui viennent, car toutes les entreprises se posent des questions. C'est comment continuer d'être pérenne en termes de
gagner
de l'argent,
oui,
de business.
Ça, oui, tout à fait.
Tout en ayant des impacts divisés par 2 ou 3 ou 4.
Un business responsable.
Un business responsable. Et ça, ça va pas de soi, car il y a des vraies fausses bonnes idées, il y a du greenwashing, il y a aussi...
Tu vois encore beaucoup de greenwashing ?
Il y en a, oui, il y en a, il faut pas se beurrer les lunettes, il y a encore du greenwashing auprès de certaines entreprises, pas forcément françaises d'ailleurs, mais c'est de plus en plus compliqué de faire semblant. Le consommateur est de plus en plus éduqué, les censeurs le sont de plus en plus, les agences de notation font
attention. Et les médias pointent du doigt directement.
Et les médias également. Donc c'est faire semblant, ça a été possible dans les premières années de la prise de conscience, où on était... Alors moi je dirais pas que les gens étaient pas sincères, mais disons que l'objectif...
Non mais ils en profitaient.
Oui, en fait c'était de faire mieux ce qu'ils avaient toujours fait, mais il n'y avait pas véritablement d'envie de faire autrement. Aujourd'hui, ils sentent bien que le faire mieux ne suffira pas. Donc, il faut faire autrement. Et c'est là que ça pose un certain nombre de questions sur à quelle vitesse on va, comment on le fait, avec quel partenaire. C'est plus la même chose.
Et justement, au sein du C3D, concrètement, quels sont vos engagements, quelles sont vos actions?
Alors, concrètement, nos chantiers, c'est le premier chantier. J'ai annoncé ça lors des vœux du C3D, lors de Change Now, il y a une quinzaine de jours.
J'y étais aussi.
Et super manifestation d'entrepreneurs engagés.
Honnêtement, top.
La première chose qu'il faut qu'on change, c'est le système de comptabilité de nos entreprises.
Ouais. C'est très drôle parce que je suis tombée sur peut-être quelqu'un d'ailleurs que je vais interviewer sur de la compta responsable.
Oui, c'est possible. Il y en a plusieurs. Il y a Alexandre Rambeau, il y a Jacques Richard. Et donc nous, ça fait un petit bout de temps qu'on travaille sur ce sujet. Et on s'est dit il faut qu'on attaque cet Everest là. Alors pourquoi? Parce que vous savez que dans une entreprise aujourd'hui, les entreprises ont une obsession, c'est de défendre leur capital financier.
En même temps, c'est le cœur même de l'entreprise, c'est de générer du business.
De générer du business et bien sûr de maintenir ce capital financier le plus longtemps possible et de le développer. Mais il y a deux autres capitaux qui sont nécessaires pour faire fonctionner l'entreprise. Il y a le capital humain, bien sûr. Et puis il y a aussi, et surtout, je dirais, le capital naturel. Capital naturel, c'est qu'il ne peut pas y avoir de business sans mobilisation de matières premières et d'énergie. Sauf que ces matières premières et cette énergie, elle est comptée comme un actif au niveau des entreprises. Donc on utilise des matières premières, mais les matières premières, on ne les paye pas en fait. Elles sont gratuites, elles ont été produites par la nature il y a très très longtemps. Et on ne met rien au passif du bilan sur le capital naturel pour les reconstituer, les régénérer, les réparer, les compenser, etc. Donc du coup, c'est facile de faire du business lorsqu'on ne paye pas l'essentiel de l'élément qui permet de faire ce business. Sauf que avec ce système comptable qui est borgne en fait, on considère qu'il est possible de faire du business à l'infini, alors que les matières premières elles sont finies. Donc cette fausse croyance que les économistes du début du 19e siècle ont cru dur comme fer que c'était possible de faire du business et de faire de la croissance infinie avec des ressources finies. Les entreprises sont en train de se rendre compte que c'est pas possible et que si on ne préserve pas ces ressources, tôt ou tard, il y aura plus de business. Donc, si on veut pouvoir préserver cette composante essentielle au fait qu'il y ait business ou pas business, il faut pouvoir mettre en place un système comptable et considérer que les matières premières qu'on utilise doivent être
Pertes, du coup.
Alors, coût de maintien. C'est-à-dire, en fait, si j'utilise un arbre pour faire mon business, est-ce que j'ai mis dans mes comptes la provision qui me permet d'en planter un ou d'en planter deux, pour être sûr que quand j'aurai besoin d'un autre arbre pour continuer de faire mon business, j'aurai bien maintenu, en fait, le vivier dont j'ai besoin pour continuer de faire mon business.
Et du coup, des solutions sont proposées?
Oui, alors, cette comptabilité environnementale, il y a déjà des entreprises du C3D qui commencent à la prendre en compte, et alors qui mettent en place un coût interne du carbone, qui mettent en place des systèmes où ils vont s'intégrer verticalement, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont acheter des forêts, ou ils vont acheter des systèmes qui leur permettra de garantir l'accès futur aux matières premières.
Et donc, du coup, là, on est plutôt sur de la compensation.
Pas toujours.
Que sur on va dire, une nouvelle façon de faire.
Oui, en fait, l'idée, c'est quand même d'arriver à avoir un impact neutre. Donc, si je peux pas...
Faire mieux. Je compense.
Enfin, non, si je peux pas produire mes propres ressources en m'assurant de leur non-déplétion. Si je peux pas faire ça, l'objectif, c'est de changer de modèle. C'est de dire... Ben, je veux dire que je vais essayer de baisser mon intensité sur les ressources. C'est-à-dire de passer d'un modèle où j'utilise des ressources, je fabrique un produit, et ensuite ce produit il est jeté, gaspillé, à un modèle où on est sur plutôt l'utilisation du produit, donc ce qu'on appelle l'économie de l'usage, ou l'économie de la fonctionnalité, où l'entreprise fabrique le produit, mais reste propriétaire du produit, pour vendre l'usage du produit, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité.
Et quand on est sur des matières premières pas nobles, ou même pas premières, si on est sur du plastique, comment est-ce qu'on fait pour le plastique, justement, pour le comptabiliser?
Alors, le plastique...
Est-ce qu'on peut, on va pas essayer de reproduire, ou comment?
Bon, on peut pas, parce que le plastique, c'est une... Dans l'absolu, ceux qui sont dans ce business-là, il faut arrêter de produire du plastique.
Donc voilà, faut mettre la clé sous la porte. Donc tous ceux qui font du packaging.
Non, il faut arrêter de produire du plastique.
Ça. Là, c'est de la production. C'est quand on explique de la compensation. Là, c'est de la production responsable. Donc à ce moment-là, il faut repenser son business.
Mais alors oui, absolument. Donc je vous donne un exemple pour arrêter de produire du plastique. Vous avez peut-être entendu parler de l'initiative Loop.
Tout à fait. Et d'ailleurs, le projet Loop, Bertrand nous en parlait dans le podcast.
Ben voilà, donc si vous avez déjà eu ça, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est si vous avez des contenants qui se réutilisent, vous n'avez plus besoin de produire du plastique pour faire un contenant en plastique. Ça paraît évident, c'est le système d'un contenant réutilisable à l'infini, une espèce de consigne de contenant. Bon, ben, c'est un bon moyen d'arrêter de produire du plastique. Et je pense qu'il faut comprendre que dans la plupart des entreprises qui vont devoir réinventer leur modèle économique, il y a beaucoup de renoncements à prévoir. Si vous prenez l'industrie automobile, on sait très bien que dans les années qui viennent, il n'y aura plus de moteur thermique, non pas parce qu'il n'y aura plus de pétrole, mais Tesla, je suis pas sûr non plus. Mais c'est pas qu'il n'y aura plus de pétrole, c'est que l'acceptabilité de l'utilisation du moteur thermique sera telle que les maires des grandes villes n'en voudront pas. Et donc, il va falloir trouver un nouveau modèle de la mobilité urbaine. Je pense que ça sera très différent au niveau des campagnes. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire que l'industrie automobile va devoir se réinventer en faisant des véhicules probablement électriques ou à hydrogène, à condition que cet hydrogène soit fabriqué avec des ressources primaires green. Et est-ce que tout le monde aura une voiture? Certainement pas. Donc, on sera encore sur une économie de l'usage des voitures partagé, avec des clusters privés.
D'ailleurs, tu as une voiture, toi, ou pas?
Oui, j'ai une voiture, mais
je roule à vélo. Je t'ai vu arriver en vélo pliable. Alors, moi, j'étais à pied, ouais.
Oui, bon. J'essaye d'être...
Dans Paris, t'essayes de...
D'être exemplaire. Voilà. Et je ne roule qu'à vélo depuis 10 ans avec un Brompton Bicycle. Et qui marche très bien.
T'es déjà précurseur, donc les grèves...
Non, c'est pas un souci. Donc, on voit bien que dans l'automobile, passer d'une motorisation thermique à vendre de l'usage de véhicules décarbonés, pour l'industrie automobile, qui est une industrie mondiale, ça va être un choc énorme. Et ça va se passer entre maintenant et 2035. Nous.
Pourquoi 2035?
En fait, si on écoute les scientifiques, et au C3D, notre modèle, c'est d'écouter les scientifiques. C'est ce qu'on appelle le concept de l'entreprise contributive. L'entreprise contributive, c'est ceux qui ont raison, ce sont les scientifiques. Donc, on doit aligner notre modèle d'affaires par rapport à ceux qui ont la connaissance du comment on doit maintenir les écosystèmes, le climat, dans des conditions qui nous permettra de rester en vie, dans de bonnes conditions matérielles dans les années qui viennent. Donc, ces gens-là nous disent qu'on doit diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, au niveau planétaire, c'est-à-dire on devrait baisser de plus de 4% par an les émissions globales entre maintenant et 2030 pour arriver à la neutralité carbone, ou divisé par 3 en 2050, et une totale neutralité un peu plus tard. En tout cas, bien avant 2100. Donc, divisé par 2 déjà d'ici 2030, ça veut dire que tous les grands postes d'émission que sont le transport, le BTP, l'agriculture, la production énergétique, c'est pas une amélioration continue qui permettra de faire ça. Ce sont des véritables révolutions à la fois technologiques et comportementales. Les deux sont embedded, fonctionnent en même temps. Il y aura pas, c'est pas que par le comportement d'achat des gens qu'on arrivera à changer les trajectoires qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce sera aussi par des révolutions technologiques de la part des entreprises. Si on prend l'exemple du bâtiment, que je connais bien, Nous, nos postes d'émission, c'est essentiellement lié à la fabrication des matériaux entrants dans les ouvrages. Donc le béton et l'acier qui sont nécessaires pour fabriquer les bâtiments. Bon, si on veut abaisser l'empreinte carbone tout en continuant de construire, bah, il faut changer les matériaux entrants. Donc il y a d'autres matériaux entrants qui sont possibles, notamment le bois, mais il faut utiliser du bois issu de forêts gérées. Ça reprend la question de la comptabilité environnementale tout à l'heure. Si je coupe plus de bois que
les arbres derrière,
ça va pas le faire. Donc il faut que je puisse assurer que le bois que je vais utiliser ne vient pas de forêts primaires.
C'est aussi résistant le bois que les autres matériaux.
Oui, il n'y a pas de problème de résistance pour du logement. On va pas faire des tunnels ou des ponts en bois, quoi que ça peut exister. Mais pour du logement, c'est tout à fait possible. Et une fois qu'on a modifié ces matériaux de construction, soit avec de la terre crue, du bois, on se substitue donc au ciment, au béton, ce qui permet de faire baisser l'empreinte carbone. Mais ça suffit même pas. Si on veut vraiment aller jusqu'au bout, il faut intensifier l'usage. Donc, on rejoint l'idée de l'automobile tout à l'heure. Les automobiles de demain probablement seront beaucoup plus partagées entre plusieurs typologies d'utilisateurs suivant la chronotopie de la journée. Il y a des gens qui vont utiliser le matin, l'autre après-midi, l'autre la journée, parce que la journée, la plupart du temps, les automobiles ne tournent pas. Donc, mais pour les bâtiments, ce sera la même chose. Pour les bâtiments tertiaires notamment, il y aura des personnes qui vont l'utiliser la journée en tant qu'immeuble de bureau. Et puis le soir, certains espaces, les auditoriums, les parkings, les salles de réunion, les restaurants, etc., pourront être utilisés par d'autres typologies d'utilisateurs pour accroître l'intensité d'usage. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans l'accroissement de l'intensité d'usage? C'est que quand vous avez un bâtiment qui est utilisé sur une plage horaire beaucoup plus importante, eh bien, vous avez besoin de moins de bâtiments. Donc, qui dit moins de bâtiments, dit dans la ville, de la place pour faire autre chose, et notamment mettre des trams vertes, des trams bleus, refaire peut-être même de l'agriculture urbaine productive.
Tout à fait.
Et on va dire, mais oui, mon modèle économique, c'est, ça vous arrange pas, vous, de faire, pour Bouygues en tout cas, de faire moins de bâtiments? Bien si. Parce que demain, le fait d'avoir des bâtiments qui vont avoir une intensité d'usage plus importante, ils vont devoir être exploités différemment, avoir des espèces de community managers qui vont, un peu comme les compagnies aériennes, faire en sorte que le bâtiment soit toujours utilisé en permanence par différentes typologies d'acteurs.
C'est très drôle, on avait Franck Giary du groupe Accor, justement, qui nous parlait de ça, des lieux de ces hôtels qui étaient devenus des espèces de coworking en bas, etc. Donc là,
ça vient
vraiment,
de
rien, exactement, tout à fait dans l'ADN de...
C'est exactement la même idée. De toute façon, les industries qui ont compris ça, c'est bien sûr les compagnies aériennes qui l'ont pas fait du tout pour l'environnement d'ailleurs, mais qui l'ont fait pour simplement rentabiliser leur actif qui coûte très cher, parce qu'un avion, ça coûte très cher. Les hôtels, c'est évident, ça ne sert que la nuit, qu'est-ce que j'en fais la journée?
Exactement.
C'est dommage d'ailleurs qu'ils n'y aient pas pensé un peu plus tôt, mais nous non plus. Et puis nous, on construit des bâtiments pour nos clients.
Mais finalement, la RSE nous fait nous réinventer complètement, et je trouve ça génial.
C'est
génial.
Dans tous les domaines, ce qu'on fait au C3D, c'est on dit comment on peut faire notre business autrement, en réduisant notre empreinte, notre impact.
Ah, on a sorti le nom du podcast.
Comment?
On a sorti le nom du podcast. T'es bien placé. Notre empreinte.
Oui, ben voilà, notre empreinte, l'empreinte globale. Pour dire, voilà, on doit en X itérations, parce qu'on a bien conscience que on ne peut pas faire ces révolutions en une seule itération. C'est quoi une itération? C'est dire, voilà, on va passer d'un immeuble ou d'une voiture thermique diesel à une voiture complètement verte qui n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe pas. La voiture la plus verte, c'est celle qui n'existe pas non plus. Si on veut quand même,
on ne roule pas,
on ne roule plus. Mais c'est vrai que c'est une boutade. Mais on parlait du plastique tout à l'heure. Le plastique, la vraie solution, c'est pas de le recycler, c'est de l'arrêter.
Oui, tout à fait. C'est que on en a parlé avec Laurent Turpeau pour Coca, qui essaye du coup de vraiment rendre son plastique composé à 80% ou même presque 100% de plastique recyclé. Mais c'est vrai que la meilleure solution, c'est de l'arrêter.
C'est l'arrêter. Et aujourd'hui, tout le discours qu'on doit avoir nous dans les entreprises, c'est comment on va garantir un niveau de confort pour les citoyens et un niveau aussi d'inclusivité. Le but, c'est pas qu'il y ait des exclus du système. Le grand problème du développement durable, c'est que pendant très très longtemps, on a dit c'est bien, mais c'est plus cher. C'est ça le green business. Donc oui, les voitures électriques, vous parliez de Tesla tout à l'heure, des produits bio, etc. Mais il y a une toute petite frange de la population dans le monde qui peut se payer ce type de produits.
Et puis les produits bio, on a eu Aurore Market, deviennent de plus en plus accessibles. On est aussi Greenwiz, ils essayent de le rendre de plus en plus accessible. Et ça devient accessible même quand on voit Carrefour qui essaye de rendre ses produits bio plus accessibles.
Et c'est ça le but du jeu, c'est d'arriver à rendre...
À avoir suffisamment de demandes et de consommation de ces produits-là, finalement, pour baisser les prix.
Oui, mais... Oui, absolument. L'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que n'importe quelle classe sociale, n'importe quel pouvoir d'achat puisse accéder à ces produits. Mais dans certains cas, c'est pas possible. Dans certains cas, parce que les rendements sont différents.
Parce que les ressources sont trop faibles.
Parce que les ressources, c'est pas possible. Donc, si on veut faire en sorte que le durable devienne rentable pour tout le monde, et c'est pas une utopie, il faut aussi s'attaquer au modèle d'affaires. Et donc, ce modèle d'affaires, c'est de dire pour l'industrie du bâtiment, c'est des bâtiments donc qui vont avoir plus d'intensité d'usage, mais c'est aussi des bâtiments qui vont produire leurs propres ressources. Alors ça, c'est un truc qui est inventé par Bouygues en 2011, ce qu'on appelle les bâtiments à énergie positive. Donc aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques ne coûtent pas très cher. Alors certes, ils sont fabriqués en Chine majoritairement, mais dès lors que vous les implantez sur un bâtiment, le bâtiment produit sa propre énergie.
En fait, il y a quelqu'un à vélo en bas qui pédale et qui produit.
Non, c'est plus simple que ça. C'est simplement les panneaux. Et qu'est-ce qu'on fait de cette énergie aujourd'hui? On peut l'autoconsommer dans le bâtiment.
Tout à fait.
On peut la revendre, si le bâtiment n'en a pas besoin, on peut la revendre à son voisin. On peut la stocker dans des batteries de seconde vie, pour pouvoir l'utiliser plus tard, en fonction de la courbe de charge du bâtiment. Et c'est là qu'on voit...
Il n'y a même pas de perte d'énergie, vu que toute celle qui n'est pas utilisée est même réutilisée par d'autres acteurs.
Par les voisins, ne serait-ce que ça.
Génial.
Donc, on voit bien que le développement durable, c'est pas forcément, des technologies qui sont, rudimentaires. Ça peut être de la haute technologie. Même si l'essentiel des nouveaux produits de demain auront comme paradigme la frugalité et la sobriété dans la consommation des ressources. Mais il y aura aussi, dans certains cas, l'usage du numérique, ne serait-ce que pour les optimisations de contenance, c'est-à-dire un bâtiment qui veut être avec un taux de charge de 70 ou 80%, vous ne pourrez pas le faire sans le numérique, ne serait-ce que pour la gestion des espaces dynamiques entre les différents types d'acteurs. Donc, on ne veut pas non plus faire comprendre, on ne veut pas faire croire, en tout cas, que le développement durable, c'est uniquement du low-tech. Il y aura besoin de beaucoup de low-tech. Hein. Mais il y aura besoin, dans certains cas, des technologies les plus avancées pour pouvoir faire ces optimisations. Mais il y a plusieurs pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier piège, c'est l'effet rebond. Oui, donc vous consommez moins, très bien. Donc, les économies qu'on fait sont finalement réutilisées par d'autres industries. Donc, on ne gagne rien in fine. Je vous donne un exemple. Les bâtiments basse consommation qui ont été décidés par la régulation en 2012, qui consomment moins, ben les gens, avant, se chauffaient à 19 degrés, parce que de toute façon, ils n'avaient pas les moyens de se chauffer plus. Maintenant, ben, comme ça leur coûte pas plus cher, ils se chauffent à 22 degrés. Donc, ils payent le même coût, mais on ne gagne rien en termes de consommation d'énergie. Donc, c'est ça l'effet rebond. Ben, dans beaucoup de cas, la plupart du temps, lorsqu'on fait un progrès quelque part, il est consommé, ce progrès, par une autre industrie. Vous faites des économies toute l'année parce que vous roulez à vélo toute l'année, et puis vous allez prendre l'avion pour vos vacances d'été, bah, tout ce que vous avez économisé en carbone sans utiliser votre voiture, vous le cramez en un seul voyage aller-retour à l'autre bout de la Terre. Donc le problème, c'est d'avoir, au bout d'un moment, cette espèce de cohérence qui sera nécessaire à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, pour baisser ce qu'on appelle les émissions nettes, c'est-à-dire y compris en prenant en compte les effets rebonds. Ben ça, c'est pas facile. Et c'est pourtant ce qu'il faut qu'on arrive à faire si on veut maintenir le climat dans des limites acceptables pour l'humanité.
Et donc au sein du C3D, finalement, comment toi tu fais pour accompagner toutes ces entreprises aux business différents? Parce qu'il y a du retail, il y a du textile, il y a plein de choses complètement différentes.
Il y a toutes les entreprises.
Du coup, c'est des brainstorms, vous êtes tous autour de la table et vous vous aidez, ou est-ce que c'est des normes, enfin je ne sais pas, du coup comment ça fonctionne le C3D?
Non, alors le C3D c'est un collège d'acteurs, de professionnels. On travaille pas sur des approches sectorielles, parce que il y a trop de secteurs différents,
ça n'aurait
pas de sens. Par contre, on travaille sur tous les enjeux communs à toutes les entreprises. Alors, l'un des enjeux communs, j'en parlais tout à l'heure, c'est la comptabilité environnementale.
Tout à fait.
Comment on maintient le capital naturel? Et il y a plein de façons de faire aujourd'hui, il y a des méthodes qui existent. Et on essaye de les appliquer et de voir ce que ça donne dans la comptabilité réelle. Ensuite, ce qu'on essaye de voir, c'est quels sont les modèles économiques utilisés par les pionniers. C'est toujours intéressant de voir quels sont les pionniers. Les modèles économiques alternatifs aux modèles linéaires prédateurs qu'on connaît aujourd'hui et qu'on utilise tous. Et qui fonctionnent encore très bien, mais dont on sait qu'ils ne sont pas pérennes à l'horizon de quelques années. Donc, on va aller voir on les fait venir, on les écoute, on les côtoie, ces petites entreprises souvent, ou même ces filiales de grandes entreprises qui ont entamé leur mutation vers des modèles d'affaires plus durables, notamment en utilisant l'économie de la fonctionnalité, l'ESS ou l'économie circulaire. Et on regarde, mais qu'est-ce qui est différent par rapport au modèle d'avant ? Sur le sourcing des fournisseurs, sur l'interface avec les clients, le marketing, la façon de proposer le produit. On vend plus le produit, on vend en usage, donc c'est plus les mêmes arguments, c'est plus la même chose. Et on fait des retours d'expérience auprès des membres, de manière à ce que les membres les plus avancés viennent inspirer ceux qui le sont moins. Donc il y a toujours au C3D, dans plusieurs domaines différents, des entreprises qui ont mis en place des expériences avant les autres. Donc ce sont des groupes de travail, on travaille sur la façon d'acheter différemment, sur le marketing, d'ailleurs celui du marketing c'est Bertrand qui l'anime.
Bertrand Zwiderski, parce que nous c'est Bertrand, mais...
Le directeur DD de Carrefour, qui fait vraiment un truc formidable chez Carrefour. C'est aussi la trajectoire de degré, donc la trajectoire de degré, ça c'est un vrai sujet, même si le vrai objectif c'est 1,5 degré, hein. C'est de dire ben, comment les entreprises arrivent à décarboner leur modèle d'affaires tout en continuant de gagner de l'argent sur l'ensemble des scopes, c'est-à-dire le scope maîtrisable, là où elles ont directement les moyens d'agir, mais aussi le scope de leurs clients, donc comment elles accompagnent leurs propres clients dans des changements de comportement. C'est pas facile. Il y a aussi le sujet de la raison d'être. Donc c'est que la loi PACTE a été votée l'an dernier. Les entreprises sont invitées à redéfinir à quoi elles servent. Donc il y a deux questions auxquelles toutes les entreprises doivent répondre. C'est qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon entreprise n'existait pas ? Donc c'est ça la raison d'être. Et surtout, qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas ? Et ça pose la question des externalités négatives. Donc, ah oui, si mon entreprise n'existait pas, ben on produirait pas tant de gaz à effet de serre, on produirait pas tant de toxicité, de particules, etc. Eh bien, c'est précisément sur ces éléments-là que l'entreprise doit travailler si elle veut être durable. Parce que tôt ou tard, les entreprises qui vont embarquer trop d'externalités négatives seront éliminées par...
Les consommateurs.
Par les consommateurs, par des concurrents plus vertueux. Et ce qu'on appelle leur license to operate, hein, leur autorisation d'exister par les parties prenantes, que ce soit les analystes, les agences de notation, les consommateurs acteurs, et puis sans doute tôt ou tard la régulation, même si la régulation est souvent un peu la voiture balai du système, eh bien ces entreprises ne pourront plus travailler. Donc nous, on accompagne nos membres en leur disant, voilà, si vous voulez rester vivant, à un horizon maintenant assez court, entre maintenant et 2030, eh bien vous devez tout changer. Changer votre système de management, donc votre façon d'innover, innover dans votre façon d'innover pour proposer à vos clients des produits qui sont réellement utiles à la fois pour eux, mais aussi qui ont une utilité sociale et environnementale. On doit sortir d'un espèce de consumérisme des produits, hein, je dis souvent dans les conférences, où les entreprises pendant très très longtemps ont inventé des produits pour leurs clients. Et les clients n'avaient pas toujours besoin de ces produits.
On a créé le besoin.
On leur a fait acheter avec de l'argent qu'ils n'avaient pas toujours, en ayant recours à des systèmes de prêteurs d'argent.
Et puis même au-delà du prêteur, ça donnait envie. Quand on allait dans un magasin, on y allait pour un besoin précis. On repartait avec un caddie rempli de choses complètement inutiles, en oubliant presque déjà l'achat initial.
Oui, absolument. Donc ça, c'est toute la force du marketing. Alors, ce modèle-là, au bout d'un moment, on voit bien que ça fonctionne plus et que il y aura besoin pour les entreprises de se réinterroger sur ce que je fabrique là. Est-ce que c'est vraiment utile ?
Il y aura à terme, comme tu le disais, les scientifiques. Moi, j'ai écouté aussi les scientifiques. À terme, il y aura plus assez de ressources naturelles pour cette surconsommation de toute façon. Donc, il faudra revenir à l'essentiel.
Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle le purpose. Hein. On aura besoin d'avoir des entreprises qui proposent des produits qui ont du sens et surtout qui pourront lutter contre les mésusages. C'est-à-dire, en fait, vous avez une voiture. Bon, ok, très bien. Il y a encore des gens qui auront besoin de voitures longtemps, mais on peut s'en servir utilement et puis inutilement.
Donc, on peut prendre d'autres personnes, voilà, comme le font les partages.
D'avoir un comportement plus responsable et puis de pas l'utiliser pour des petits trajets. Enfin, après, il va y avoir, vous savez, sur tout ce qui a changé, il y a 25% à peu près de ce qui viendra des consommateurs. Changement comportemental, manger moins de viande, beaucoup moins de viande, voire plus de viande, prendre moins l'avion, tout ça, ça paraît maintenant évident. Ceux qui ont des enfants et qui continuent d'utiliser de faire ça, c'est même complètement irresponsable, ne serait-ce que par rapport à leurs propres enfants. Mais ça ne réglera que 25% du problème, ces changements de comportement. Ensuite, les 75% autres, ça viendra des entreprises, donc changement de modèle économique, et ça viendra de la régulation. Donc là, la capacité où tôt ou tard, le régulateur, qui est quand même, qui devrait quand même être le garant de des communs, c'est-à-dire de ce qui doit être maintenu pour l'éternité, c'est comment le régulateur va devoir tôt ou tard définir un certain nombre de règles du jeu qui permettront aux acteurs d'investir sur le long terme. Parce que les entreprises ne sont pas contre la régulation, elles sont contre la régulation qui change tout le temps. Parce qu'une régulation qui change tout le temps, ça ne leur permet pas ni d'investir, ni de se préparer, ni de construire des stratégies, etc. Donc oui à la régulation, à condition qu'elle s'applique le plus largement possible. Et c'est pour ça que ça serait bien si un jour on avait une gouvernance mondiale sur ces thématiques. On en est loin, mais on peut rêver.
Surtout en ce moment.
Surtout en ce moment, mais les temps peuvent changer. Et si on arrive à aligner ces trois planètes, le changement de comportement des acteurs, des consommateurs, des modèles économiques complètement reconfigurés sur la base de ce qu'on appelle, nous, l'entreprise contributive au C3D, et puis une régulation adaptée qui ne change pas tout le temps, ben c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans les 3600 jours qui sont devant nous, si on veut véritablement diviser par deux nos émissions au niveau mondial et éviter ce que les scientifiques appellent l'emballement climatique, c'est-à-dire un point de non-retour à partir duquel, même si on fait les plus grands efforts, ça ne servira à rien parce qu'on aura changé de système, et on aura changé l'équilibre en fait des grands des phénomènes thermodynamiques sur cette planète, ce qui serait dramatique parce que la planète mettra des milliers d'années à retrouver un état stable.
Merci beaucoup Fabrice, c'était vraiment hyper intéressant. Est-ce que tu as envie de rajouter une dernière chose?
Oui, ce que je voudrais dire, c'est tous ces sujets, il faut donner envie. C'est-à-dire, en fait, l'objectif, c'est de montrer.
Ça, tu vois, d'être bienvenue dans l'empreinte.
Voilà. Montrer que c'est pas qu'on peut le faire avec beaucoup d'enthousiasme, que la plupart des collaborateurs, quand on leur parle de ça, ils sont d'accord de se dire, ben pourquoi pas. Hein, finalement, pourquoi pas changer de modèle, pourquoi pas travailler sur des produits qui ont du sens, pourquoi pas revoir nos certitudes sur la façon de faire notre métier, même si ça fait très très longtemps qu'on le fait d'une certaine manière. Donc, moi je dis aujourd'hui qu'il est possible de se réinventer sans larmes et sans sueur particulière, c'est-à-dire avec une certaine dose d'optimisme et d'allégresse. Mais il faut beaucoup de persévérance, de leadership, et il faut laisser la parole à ceux qui proposent des solutions. Je crois que c'est l'objectif de votre podcast.
Tout à fait.
Donc, il faut parler des solutions
pour inspirer,
parce que ces solutions donnent envie à d'autres de tester, de dire voilà, si eux ils sont arrivés, pourquoi pas nous? Donc, lorsqu'on aura atteint, vous savez, moi j'appelle ça la ola, hein, un certain nombre de personnes qui vont se lever dans le stade et qui vont entraîner tous les autres. Mais le plus compliqué, c'est les tout premiers qui se lèvent. Eh bien, soyons les tout premiers qui se lèvent pour entraîner ensuite tous les autres.
Eh ben, c'est sur ces jolies phrases que l'on va conclure. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Bababam et toutes les applications de podcast. N'oubliez pas aussi Podinstall. Et puis proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.